إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى مع شرح الدكتور سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى وما زلنا في باب اللقطة باب اللقطة وكما ذكرنا في درسنا الماضي اللقطة هي المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره Donc on est toujours dans le chapitre concernant ce que l'on appelle al-luqata. Donc al-luqata, on avait défini la semaine dernière comme étant un bien, un objet qui a été perdu. Donc un objet perdu, un bien perdu par son propriétaire et qui a été trouvé et ramassé par quelqu'un d'autre. Ça c'est al-luqata. Wa dhakarna innaha ala thalathati adrub. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف طيب il y en avait dit que le lokata donc était de trois sortes il y en avait rajouté aussi une quatrième en plus que n'a pas cité le Cheikh Saadi dans son livre rahimahullah donc il dit Cheikh Saadi La première sorte de luqata, ceux dont la valeur est minime, ceux dont la valeur est petite, tels qu'un fouet, du pain, hein, ou autre que cela, eh bien, celui qui trouve ce bien de petite valeur, il aura le droit de le garder et d'en être donc le nouveau propriétaire sans faire ce qu'on appelle le ta'rif, sans faire ce qu'on appelle le ta'rif, c'est-à-dire... sans annoncer la perte de tel ou tel bien, yani dans les endroits où les gens se réunissent, comme devant les mosquées ou autres, pour retrouver son propriétaire. Donc ces objets-là, on n'a pas besoin de faire cela, on peut les garder lorsqu'on les trouve. D'accord ? Non, parce qu'en général, on a dit, la majorité des gens ne font ne vont pas faire d'efforts pour les retrouver, celui qui perd yani, un peu de pain ou celui qui perd yani, un euro ou deux euros ne va pas faire l'effort de retrouver ce genre de bien qui a peu de valeur. Wallahu a'lam. Wa thani al-dawal allati tamtani'u min sighar al-sibai kal-ibil fala tumlaku bil-iltiqati mutlaqan. La deuxième catégorie, les animaux les animaux qui ont été égarés, mais qui ne risquent pas d'être attaqués ou dévorés par des petits félins, d'accord, ou par des petits animaux yani, voraces, tels que les chiens ou autres. Donc ces animaux yani, qui ont été égarés, par exemple, le chameau, le cheval, la vache, l'antilope, ou les oiseaux également. Donc tous ces oiseaux-là qui peuvent être égarés par leur propriétaire et qui ne risquent pas d'être attaqués car, alhamdoulilah, ils peuvent se défendre tout seuls ou alors ils sont assez grands et au niveau de la taille pour ne pas être attaqués par des petits animaux yani, tels que les chiens ou autres. Taïeb. Naam. Donc cela, il est absolument interdit de les prendre. Il est absolument interdit de les recueillir, yani pour en devenir les nouveaux propriétaires. Naam. Thalith, ma siwa dhalik, fayajuzu iltiqatuhum wa yamlikuhum idha arrafa sanatan kamilatan. Et on avait dit, en résumé, la troisième catégorie, tout ce qui est ne fait pas partie de la première catégorie ni de la deuxième catégorie. C'est bien là, il sera permis de les récupérer à condition qu'on fasse ce qu'on appelle un ta'rif pendant une année entière. Pendant une année entière. C'est-à-dire qu'on va yani, annoncer la perte ou le fait qu'on ait trouvé tel ou tel objet ou tel bien, hein, afin que celui qui les a perdus puisse les retrouver. وهكذا نعم تعريفها يكون بأن ينادي عليها في الأسواق وعند أبواب المساجد أوقات الصلوات طيب donc comment يعني faire ce qu'on appelle un tarif eh bien en annonçant la perte de cet objet-là dans les marchés devant les mosquées durant les heures de prière là où les gens se réunissent pour que celui qui les a perdus puisse yani, les retrouver inchallah ta'ala en disant par exemple qui est-ce qui a perdu telle ou telle chose ou autre que cela parmi les expressions. Non. On avait cité aussi une quatrième catégorie qui n'a pas été citée par les cheikhs le Sa'adi, rahimahullah ta'ala, luqatatul haram. Luqatatul haram, taïeb, wa kathalikum, Luqatatul Hajj. Donc, c'était aussi les objets ou les biens perdus dans le territoire sacré de la Mecque, ce qu'on appelle Al-Haram, qui a aussi un statut à part, et les biens ou les objets perdus par le pèlerin. Le pèlerin lors du pèlerinage. Donc, ces objets ou ces biens ont un statut aussi à part. Donc, pour ceux qui voudraient les connaître, eh bien, qu'ils retournent au cours précédent, Inch'Allah ta'ala. L'an, Inch'Allah ta'ala, ça nous parle d'un laqit. Un laqit. Qala al-mu'allif, rahimahullah ta'ala, wal-tiqatu al-laqiti wal-qiyamu bihi fardu kifaya. Fardu kifaya. اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه كأن يكون نبذ أو ضل عن أهله والتقاطه والقيام بشؤونه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولأن فيه إحياء نفس معصومة طيب Dans le même chapitre, ici, l'auteur, il va parler de ce qu'on appelle al-laqit. Donc, al-laqitu, c'est, il dit l'auteur déjà, le fait de recueillir ou de ramasser un laqit et de s'occuper de lui est une obligation qui faille. Est une obligation. Qui fait une obligation collective. Taïeb. Donc, l'aqitu, c'est l'enfant dont on ne connaît pas la famille. Et nous, on ne sait pas à quel clan ou à quelle famille il appartient. Pourquoi? Parce qu'il a été soit abandonné par sa famille, ou soit parce qu'il s'est perdu et égaré, et on ne sait pas à quelle famille il appartient. Cet enfant, on l'appelle Al-Laqit. Donc le fait de le recueillir, cet enfant-là, pour celui qui l'a trouvé, et de subvenir à ses besoins, de s'occuper de lui, c'est une obligation qui est collective. Ça veut dire que lorsque une partie des musulmans s'occupe de lui, cela décharge tous les autres. Mais si personne ne s'occupe de lui et le laisse mourir, et seul, eh bien, on aura tous commis un péché. Ça y est? Non. Donc, c'est une obligation qui est kifaya. Donc, le fait de le recueillir et de subvenir à ses besoins est une obligation kifaya. En vertu de la parole d'Allah et Azzawajal, dans le sens rapproché, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et également parce que le fait de le recueillir et de s'occuper de lui, eh bien, c'est une cause qui va faire qu'une vie qu'Allah Jalla wa Ala a interdit, d'enlever, va être sauvée. Donc le fait de sauver cette vie-là, bien sûr, c'est une obligation collective. Non. ثم قال فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله نعم فتجب نفقته على بيت المال لما ثبت عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه فتهم فأثني عليه خيرا فقال عمر هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال أخرجه عبد الرزاق مختصرا وأخرجه مالك مطولا وإسناده صحيح وذكره البخاري معلقا مجزوما به وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فيجب على من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكة وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق والأحق بحضانة اللقيط واجده إذا كان أمينا رشيدا فميرة اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ولحق به لأن هذا الإقرار لمصلحة اللقيط. Puis il dit par rapport au laqit, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est impossible de subvenir à ses besoins avec l'argent de Bayt al-Mal. Bayt al-Mal, c'est le trésor public. Avec l'argent du trésor public, yani lorsqu'il est impossible de subvenir à ses besoins avec cet argent-là, eh bien, l'obligation de subvenir financièrement à ses besoins reviendra à celui qui a connaissance de la situation de cet enfant. Donc si celui qui a connaissance de la situation de cet enfant-là ne subvient pas à ses besoins, il aura commis un péché. Et tous ceux qui le savent auront commis un péché s'ils ne s'occupent pas de cet enfant-là. Wallahu musta'an. Taïm. Il dit le cheikh, حفظه الله تعالى شيخ سليمان Oui, non. Il est obligatoire de dépenser pour lui avec l'argent de Beit al-Mal, du trésor public. Comme cela a été confirmé selon Ibn Shihab, selon Sunayn, Abu Jamila, qui est un homme de la tribu de Sulaym, qui a dit, donc qu'il a trouvé yani, un manbouz, c'est-à-dire un laqit, un enfant qui a été abandonné. Et ça existe, mais jusqu'à aujourd'hui, des enfants, et on trouve des fois des bébés ou des enfants abandonnés dans le Moustan. Donc un enfant a été trouvé, abandonné à l'époque de Omar Ibn Khattab, radiyallahu anhu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Abu Jamila? Il a pris l'enfant, il est parti voir le gouverneur, le calife, Omar. Et là, Omar, yani, il a accusé. Il a accusé, tout d'abord, comme disent les ulama, d'avoir yani, pris cet enfant-là trop rapidement, et peut-être que, yani, en vérité, il avait ses parents pas loin ou sa famille pas loin, et qu'il avait pris cet enfant-là peut-être pour toucher l'argent du trésor public. Ça y est. Et à côté, des gens, yani, ont récusé cela et ont dit non, yani, Abu Jamila, il est connu pour être quelqu'un de pieux, quelqu'un de vertueux, il ne peut pas faire ce genre de choses. Donc là, Omar, il lui a dit, par conséquent, l'enfant, il est libre, alhamdoulilah, c'est-à-dire, ce n'est pas un esclave, c'est un enfant qui est libre, et voilà, ou c'est-à-dire, son éducation, ça, le fait que sa défense, le fait de l'élever, de subvenir à son éducation, etc., tout revient à toi et sa dépense, elle revient au trésor public. Donc c'est le trésor public qui va subvenir à ses besoins. Donc le hadith rapporté par Abu Razzaq de façon résumée. Également, il a rapporté ce hadith, l'imam Malik, dans son format, yani, le plus long. Et sa chaîne de transmission est authentique, alhamdulillahi ta'ala. Et également l'imam Bukhari l'a rapporté dans son livre. Naam. Il dit l'imam Ibn Munzir que tous ceux qui de tous ceux qu'on de qui on a pris la science sont unanimes sur le fait que la dépense envers Al-Laqit, le fait de dépenser pour Al-Laqit, pour l'enfant perdu ou abandonné, n'est pas obligatoire pour celui qui l'a trouvé. C'est-à-dire que cette dépense-là, elle ne revient pas à celui qui l'a trouvé, mais elle revient, comme on a dit, au trésor public. D'accord? Les Bayt el-Mal. Mais lorsque cela est impossible pour diverses raisons, eh bien, dans ce cas-là, cette obligation-là, cette responsabilité-là, reviendra à celui qui a connaissance, comme on a dit tout à l'heure, de la situation de cet enfant-là. Donc, tous ceux parmi les musulmans, yani, devront s'organiser pour subvenir à ses besoins financièrement. Ça y est? Et cela en vertu de la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, mentionnée tout à l'heure, et entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le fait de ne pas dépenser pour cet enfant-là, eh bien, cela va provoquer sa mort et sa perte. Et le fait de le préserver et de protéger cet enfant-là est une obligation, comme le fait de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, si tu ne le sauves pas, tu auras commis un péché. Si tu en es capable, bien sûr, de le sauver. Ça y est? Donc, c'est pareil si tu vois un enfant qui est égaré, qui a été abandonné, que tu ne l'aides pas, alors que tu es le seul, peut-être, à connaître sa situation et que tu ne fais rien, tu auras commis un péché. Ça y est? Très grave. Wallah al-Musta'an. Puis il dit, et celui qui est prioritaire dans le fait de l'éduquer et de prendre soin de lui, eh bien c'est celui qui l'a trouvé. C'est lui qui est prioritaire. D'accord? Et pas quelqu'un d'autre. À condition, bien sûr, qu'il soit quelqu'un de loyal et d'honnête. Et quelqu'un de raisonnable. Panin, c'est pas un fou, hein? Quelqu'un qui n'est pas yani, droit ou honnête. Badavalika, il dit l'héritage de Al-Laqit. L'héritage de Al-Laqit ou l'argent, si jamais il se fait tuer, on a ce qu'on appelle Ad-Diyah, le prix du sang. Donc si Al-Laqit se fait tuer, on va devoir y aller dans. Le gouverneur pourra donc exiger ce qu'on appelle le prix du sang. Normalement, Ad-Diyah. C'est-à-dire que l'assassin ou devra y aller verser ce qu'on appelle le prix du sang. D'accord? Donc, à qui sera reversé cet argent-là? Puisque cet enfant-là, on ne sait pas à quelle famille il appartient. Eh bien, il sera reversé au trésor public. À condition, bien sûr, qu'il n'a pas laissé derrière lui d'héritier. Par contre, s'il a eu des enfants plus tard, eh bien, cet argent-là reviendra à ses héritiers. Ça y est? Donc, s'il n'a pas d'héritier, son héritage ou la DIA, s'il a été tué, reviendra au trésor public. Mais s'il a des héritiers, bien sûr, cela reviendra à ses héritiers. Khalas. Ensuite, enfin, il y en a la dernière chose, dernier point. Si une personne vient et dit quel est, il y en a, le père ou la mère de l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va accepter, il y en a, sa reconnaissance. On va accepter sa reconnaissance et on va y aller rendre l'enfant à sa père, à sa mère ou à son père. Pourquoi? Parce que le fait de reconnaître l'enfant, c'est un bienfait pour l'enfant. C'est une maslaha pour l'enfant. Il vaut mieux qu'il vive avec ses parents qu'avec d'autres personnes. D'accord? Khalas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, fait. بلاد المسلمين مثلا في بلاد المباركة المملكة العربية السعودية فيها دار لهؤلاء اللقطاء اسمها دار الرعاية الاجتماعية يحفظون فيها ويعنى بهم العناية التامة من حيث الغذاء أو الغذاء والكساء والمسكن والنظافة والرعاية الصحية والخدمة الممتازة وتربيتهم وتعليمهم جزاه الله ولاة الأمر خيرا. Donc on a dans les pays musulmans, on a des centres d'accueil pour ces enfants-là, bien Allah Azza wa Jal, alhamdulillah. Par exemple, en Arabie Saoudite, on a ces centres-là d'accueil pour les enfants égarés ou les enfants abandonnés qui vont s'occuper d'eux. Hein, ces centres, on les appelle Dar Ri'ati al-Ijtima'iyya. Dar Ri'ayati al-Ijtima'iyya. Dans lesquels on va donc protéger et sauvegarder ces enfants-là. Et on va prendre soin d'eux, yani, de la meilleure des manières, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'habillement, au niveau du logement, au niveau de la propreté. D'ailleurs, on va prendre soin de leur santé, on va prendre soin. Et de leur éducation, bien sûr, et de leur enseignement religieux, bien sûr, et autres. Taïeb. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense l'Arabie Saoudite et tous les pays qui s'occupent de ces enfants-là de la meilleure des manières. Alhamdulillah. Taïeb. والآن ننتقل إلى الباب التالي وهو باب المسابقة والمغالبة. والمسابقة هي المجاراة بين حيوان وغيره وتسمى المغالبة. On passe au chapitre suivant, inshallah ta'ala, intitulé المسابقة والمغالبة. Donc, المسابقة, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la compétition. Ou le concours.
La compétition.
la compétition ou le concours. Donc, al-musabaqa, ce qu'on peut appeler aussi al-mughalaba. Donc, la définition de al-musabaqa, c'est quoi? Eh bien, c'est la course entre animaux. Ici, une course entre animaux ou autre que cela parmi, hein, ou autre que cela. Et on appelle aussi ces concours ou ces courses, on les appelle aussi al-mughalaba. Al-musabaqa ou al-mughalaba. Ça y est. قال الشيخ وهي ثلاثة أنواع الأول نوع يجوز بعوض وغيره يجوز بعوض أو غيره أو غيره وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام طيب نعم Donc, il dit le cheikh, al-musabaqa ou al-mughalaba sont de trois catégories. La première catégorie, celles dans laquelle ou celles qui sont donc permises, qui sont permises même avec un lot à la fin de cette course ou de ce concours, avec un lot qui attend le gagnant ou les gagnants. D'accord? Donc ces musabaqat, ces courses ou ces concours qui sont permis, ce sont les courses de chevaux, les courses de chameaux, et les concours de tir à l'arc. Dit le cheikh, ces trois, yani ces trois, vraiment ces trois domaines, le fait de concourir dans ces trois domaines, cela est permis, même s'il y a un lot à gagner à la fin pour les gagnants. Course de chevaux, course de chameaux et tir à l'arc. Taïeb. Ka'an mathalan, yuj'ala li sabiqi 100,000 euro مثلا وبغير عوض كذلك كأن لا يجعل للسابق شيئا par exemple comme l'eau a gagné eh bien on va dire que le gagnant de la course de cheval par exemple il va empocher 100 000 euros par exemple 100 000 euros et on peut aussi ne pas mettre de l'eau du tout c'est juste une course comme ça et pour le plaisir sans qu'il y ait de l'eau à gagner ou pour s'entraîner aussi, d'accord, pour entraîner les chevaux, pour entraîner les hommes, pour entraîner les chameaux, pour entraîner les hommes au tir à l'arc, etc. Voyez, non. Et attention, ne confondez pas avec les paris sportifs aujourd'hui qui existent, hein, le tiercé, le quinté, etc. Auxquels les gens jouent aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Voyez. Là, le système aujourd'hui des courses de chevaux, etc., c'est du pari, c'est du qima, du meysir, c'est interdit le qima, le fait de parier de l'argent. Là, c'est aujourd'hui, les gens, ils misent, et chaque personne est obligée de miser une somme d'argent. S'il gagne, il peut gagner sa somme, récupérer sa somme ou récupérer plus que sa somme, mais s'il perd, il perd tout. Ça y est? Donc, c'est pas la même chose. Ici, ceux qui concourent, dans les courses dont on parle ici, dans ce chapitre-là, celui qui donne le lot, c'est quelqu'un qui soit, qui ne participe pas à la course du tout. Donc, par exemple, c'est le gouverneur ou le maire de la ville, ou je ne sais pas, qui va dire, voilà, je donne au gagnant tant d'argent. Vous voyez? Mais personne ne mise quoi que ce soit. Il n'y a pas de mise ici. Il n'y a rien. D'accord? Celui qui veut participer, il n'a pas à payer quoi que ce soit. Vous voyez? Ou alors c'est un des participants aussi, c'est possible ça. C'est-à-dire par exemple, il y a 10 participants, hein, il y a 10 chevaux, un des participants il dit voilà, moi je donne 10 000 euros pour celui qui gagne, même si ce n'est pas moi. D'accord? Ça c'est permis. Mais que tout le monde doit miser de l'argent pour participer, là ça rentre dans le pari et c'est totalement interdit. Le qimar, c'est interdit. Vous voyez? Khalas? Alhamdulillah. إذن قال الشيخ لحديث أبي هريرة الآتي لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل والسبق بفتح الباء هو العوض الذي يدفع للسابق والنصل هو السهم أي أرمي بالسهام والخف كناية عن الإبل والحافر كناية عن الخيل ومعنى الحديث أي لا عوض إلا في مسابقة بالسهام أو على الإبل أو الخيل، فقصر الحديث أخذ العوض عليها، فدل على أنه لا يجوز في غيرها. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث سلمة ابن الأكوع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أخرجه البخاري. وقوله ينتظرون أي يترامون، التناظر الترامي للسبق. Donc, la preuve que cela est permis, le hadith d'Abi Huraira. Donc, il a rapporté à Abu Huraira, radiallahu anhu, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, « La sabaqa illa fi khuffin aw hafir nasl. » Il dit « La sabaq ». Donc, « sabaq » avec une fetha sur le « ba »,« sabaq ». Il n'y a pas de « sabaq », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lot à gagner. Il n'y a pas de rétribution, de lot à gagner pour le gagnant, sauf dans trois choses. Il dit, sauf dans ce qu'on appelle khuf. Donc, le khufu, c'est quoi? Eh bien, c'est un mot pour désigner les chameaux, c'est-à-dire les courses de chameaux. D'accord? Donc, le khuf, il faut savoir que c'est le sabot, en fait. Ça représente le sabot du chameau. Le sabot. Le sabot du chameau. Vous voyez? Alhamdulillah. Ou hafer. El hafer, c'est le sabot du cheval. Donc ici, c'est un mot qui va désigner la course de cheval. D'ailleurs, ou nasl. Un nasl, c'est quoi? C'est la flèche. Un naslou, c'est la flèche. Donc ça désigne quoi? Les concours de tir à l'arc. Donc on comprend dans ce hadith-là que il est permis de concourir dans ces trois choses, même s'il y a un lot à gagner. D'accord? Mais ça veut dire aussi que, hormis ces trois choses-là, il n'est pas permis de concourir. Il n'est pas permis de concourir avec un lot. Il y a un lot à gagner au final. Vous voyez? On a également le hadith d'Ibn Omar qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a concouru na'am, dans une course de cheval. Vous voyez? Ça veut dire qu'il avait des chevaux qu'il a fait concourir, yani, dans des courses avec un lot à gagner à la fin. D'accord? Donc le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et également le hadith de Salma ibn al-Akwa qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est passé devant un groupe de gens qui faisaient partie de la tribu de Aslam qui était en train de tirer à l'arc, qui était en train de faire un concours, une compétition de tir à l'arc. Et le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Urmu bani Ismaïl ». Yani, tirez aux enfants d'Ismaïl, car certes, votre père était un tireur à l'arc. Et votre père Ismaïl était un grand tireur à l'arc. C'est quelqu'un qui était excellent, excellent dans le tir à l'arc, rapporté par Al-Bukhari. Donc, vous savez que les Arabes sont les descendants d'Ismaïl. Alayhi salam. Na'am. Et donc, le verbe ici, « yantadilun », c'est-à-dire « taramun », yani, il concourait dans le tir à l'arc, alhamdulillah, et à la fin, il y avait un lot à gagner. D'accord? Donc, tous ces hadiths prouvent que cela est permis uniquement dans ces trois choses-là. Al-khaylu, al-ibilu, al-rami. Cheval, chameau et tir à l'arc. D'ailleurs, naam. فيقال مثلا في الخيل والإبل الأول له 100,000 أورو والثاني 80,000 أورو والثالث 60,000 أورو وهكذا. وأما النصل فيقال من أصاب الهدف أولا فله 50,000 أورو والثاني 30,000 أورو وهكذا. Par exemple, les lots que l'on peut faire gagner dans ces compétitions-là, dans les courses de chevaux et les courses de chameaux, on va dire par exemple que le premier, il va gagner 100 000 euros. Le deuxième, il va gagner 80 000 euros. Le troisième, il va gagner, lui, 60 000 euros. Et ainsi de suite. Le tir à l'arc, on va dire, par exemple, celui qui va toucher la cible en premier, il va gagner 50 000 euros. Le deuxième qui va la toucher, il va toucher 30 000 euros. Le troisième, il va toucher tant, etc. etc. C'est permis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi-idhnillah azza wa jalla. On continuera ce chapitre-là lundi prochain, inshallah ta'ala. On le finira et on commencera peut-être le chapitre suivant. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah tabarak wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una bima'allamana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته